Bonjour à tous, nous sommes actuellement à peu près 175 en ligne. Donc bonjour à tous. Probablement que la plupart d'entre vous, vous étiez il y a quelques minutes avec nous pour la conférence de Stéphane Bonnery, qui a mis en évidence la question des inégalités et de la continuité de ce qu'on nous a asséné comme étant la continuité pédagogique, mais qui s'avère bien plutôt être une discontinuité. Alors j'en profite pour me présenter. Donc Elisabeth Schneider, je suis enseignant-chercheur à l'INSPE de Caen et donc j'ai le plaisir d'animer cette session, cette conférence de Jean-François Cerisier. Et puis je retrouverai probablement certains d'entre vous au fil de la journée pour d'autres interventions. Oui, je continue de voir le nombre de connexions augmenter et voilà, je vais laisser la parole très rapidement à Jean-François Cerisier, donc, qui est enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication, directeur de l'unité de recherche TECNE à l'Université de Poitiers, dont les travaux portent sur l'appropriation des techniques numériques par les acteurs de l'éducation. Et donc, si vous avez pu lire le résumé, hein, vous pouvez le regarder à nouveau, le résumé de sa conférence, mais il va nous l'expliciter tout de suite. Il va être question d'enquêtes qui ont été menées sur les pratiques enseignantes depuis pendant le premier confinement et puis probablement depuis. Donc Jean-François, je te laisse la parole tout de suite de façon à pouvoir profiter au maximum du temps. Alors simplement pour les questions, les remarques que vous pourriez avoir, nous ferons comme tout à l'heure, je vous propose de formuler vos questions dans la partie discussion et au fur et à mesure, je vais les collecter. Et puis voilà, on aura un temps d'échange ensuite. Jean-François, je te laisse la parole.
Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci bien sûr aux organisateurs de cette journée pour cette invitation à y intervenir. Les chercheurs aiment bien avoir l'occasion de finalement de rendre compte des travaux qu'ils font et pas seulement par la publication dans des revues qui sont finalement peu lues. Donc, ce qui est un problème et un problème connu des rapports entre recherche scientifique et pratique de terrain, et en particulier celle des enseignants. Comme Elisabeth l'a précisé, je dirige un laboratoire de recherche à l'Université de Poitiers, il s'appelle TECNE, Technologie numérique pour l'éducation. Et tous nos travaux, d'une façon ou d'une autre, sont dédiés à la question de l'appropriation des techniques numériques dans le champ de l'éducation et selon trois dimensions principales qui sont affichées ici. À gauche, sur l'image, c'est une de nos doctorantes qui fait une étude à partir sur l'attention visuelle à partir de lunettes d'eye tracking. Donc, les trois dimensions que l'on considère, ou les trois situations que l'on considère, ou les trois groupes de questions que l'on traite, ce sont celles qui sont liées à l'appropriation par les enseignants et par les élèves des environnements informatisés pour l'apprentissage humain, EIH. Nous, ce qu'on essaie d'apporter, c'est d'apporter, à partir de l'analyse de l'activité des utilisateurs, des indications qui sont utiles aux enseignants et aussi qui sont utiles aux concepteurs de ces EIH. La deuxième dimension, c'est un travail sur les cultures, médiation et littératie numérique. Et puis, le troisième volet, c'est une contribution ou ce sont des contributions à l'analyse des politiques publiques du numérique pour l'éducation. Par exemple, dans le cadre de ce qui nous réunit aujourd'hui et depuis le mois de mars, depuis le 16 mars en fait, nous avons démarré un premier projet de recherche, enfin un premier travail de recherche sur l'utilisation des techniques numériques dans l'éducation en temps de confinement. Un premier projet qui s'appelle NUNC, Nouveaux usages du numérique et continuité, avec un S. Et puis donc c'est joli, ça fait maintenant. On l'avait aussi initialement intitulé Ici et maintenant, Hic et Nunc. Et puis comme on a élargi notre périmètre à d'autres territoires que le nôtre, eh bien on a seulement conservé Nunc. Plusieurs autres projets les ont rejoints. Et là actuellement, on est très mobilisé, je suis moi en particulier très mobilisé par un projet qui vient de démarrer il y a quelques semaines et qui est appelé à durer et qui peut-être vous concernera finalement, puisqu'il s'agit de l'évaluation que nous a demandé le SGPI, le Secrétariat Général pour l'Investissement, la CDC, la Caisse des dépôts et l'ADNE, la Direction numérique pour l'éducation. Donc, pour évaluer le dispositif territoire numérique éducatif, hein, qui est je dirais, le nouvel opus de la politique publique du numérique pour l'éducation en France, et avec un démonstrateur qui a été installé dans deux départements pour le niveau de l'école élémentaire, département de l'Aisne, 02, le département du Val-d'Oise, 95, avec une extension à la rentrée prochaine à une dizaine d'autres départements dont la liste n'est pour l'instant pas publique. Je ne la connais pas d'ailleurs. Et donc, il n'est pas impossible que cette extension concerne des départements dans lesquels vous vous trouvez, ceux qui sont là quelque part au bout du réseau avec leur application Zoom avec nous. Et là, bon, dans ce projet-là, à la fois projet institutionnel et recherche sur ce projet institutionnel, eh bien, nous travaillons des questions qui sont vraiment apparues comme étant des questions fortes observées pendant le confinement, et je vais y arriver juste après. 30 minutes, hein, c'est le temps dont je dispose. J'ai mis en route un timer, 30 et quelques minutes. Comme l'a dit Stéphane Bonnery, pour lui, je pense que c'est le propre des chercheurs, on a tellement envie de partager ce qu'on fait qu'on devient très bavard, même quand on ne l'est pas nécessairement dans la vie courante. C'est mon cas, je suis bavard. Et donc, 30 minutes pour traiter de l'hybridation, hein, qui est le thème central de mon propos, c'est très court, donc je vais évidemment être très superficiel, lui a dit caricatural, moi sans doute aussi, schématique, caricatural. Donc, j'ai choisi de ne pas aborder. Malgré le public, l'hybridation sous l'angle assez opérationnel de l'ingénierie technopédagogique de l'hybridation, dont je défends, je veux le dire ici, pourtant aussi fort que je peux, l'importance et la nécessité d'y former tous les enseignants en formation initiale et en formation continue. Donc moi, j'ai préféré ou j'ai choisi de partager avec vous quelques réflexions sur ce qui se joue avec l'hybridation en temps de pandémie, mais aussi en temps pas comment les qualifier, plus ordinaires, en tout cas avant, puis peut-être après. Je vais revenir sur l'après. Et mon propos, donc, je viens de le dire, sera caricatural. Bon, on ne peut pas vraiment faire autrement dans ce contexte. Je vais aborder successivement trois points différents et complémentaires avant de conclure très rapidement. Le premier, je voudrais, ça a déjà été fait tout à l'heure, mais le faire à ma façon, exprimer quelques éléments de ce que révèle de l'école sa mise à distance en raison de la pandémie, quelles que soient les époques, les périodes, depuis le 16 mars jusqu'à aujourd'hui. Deuxième point, j'aborderai l'hybridation, cœur de mon propos, comme une stratégie d'organisation d'activité des élèves, qu'ils soient distants ou qu'ils ne le soient pas. Distant, ça ne veut pas dire grand-chose, distant de l'enseignant. Et puis, le troisième point permettra de considérer, ou plutôt d'interroger l'hybridation comme un moyen de jouer avec les déterminants de la forme scolaire ou de se jouer des déterminants de la forme scolaire. Voilà, photo réelle, hein, pas montage, ce que révèle de l'école sa mise à distance en raison de la pandémie. Je ne sais pas ce qui a été mis à distance. Je pense que c'est l'école qui a été mise à distance des élèves. En tout cas, elle a fermé. Ce qu'on peut dire, en tout cas, moi, ce que je souhaite exprimer ici, c'est que l'épidémie ou la pandémie constitue, au sens, je dirais, scientifique, pas au sens commun, un événement et un événement marquant de l'histoire contemporaine de l'éducation, au sens où il y a eu un avant pour l'éducation, il y aura un après, dont il est évidemment difficile et même impossible de dire ce qu'il sera, même si on en parle beaucoup et qu'on parle du monde d'après et de l'école d'après. Et puis il y a un pendant, et le pendant, c'est notamment maintenant. Et ce pendant que nous vivons, il est à coup sûr très différent de la période qui a précédé. Et ce qui caractérise un événement, c'est qu'un événement est un élément qui change potentiellement le cours des choses qui n'a pas été prévu. Et donc, pas anticipé ou peu anticipé. Alors, est-ce que le coronavirus était prévisible? Certains disent que oui, beaucoup d'autres disent que non. Est-ce qu'il avait été prévu? Là, je pense qu'il y a consensus. Tous disent que non. Nous disons tous que non. Apporte-t-il des changements importants dans le champ de l'éducation? Eh bien là, nous le savons. Nous n'avons pas besoin de la recherche pour le dire. Nous savons tous, qui sommes beaucoup, je crois, enseignants d'une façon ou d'une autre, nous savons tous que oui. Donc, c'est bien un événement. Est-ce que l'on saura en tirer parti pour l'école d'après? On peut l'espérer, on peut en douter aussi. Et en tout cas, je pense qu'on doit s'y employer. Une journée comme celle-ci y contribue. Finalement, qu'est-ce que nous pouvons déjà retenir de cette période? Alors, bien des travaux de recherche, ils sont nombreux, les travaux de recherche qui ont été engagés sur des questions relatives à l'éducation en temps de confinement en France et ailleurs, bien sûr. Réseau Canopé, à la demande du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et des sports, on avait fait un recensement il y a quelques mois déjà. Il y a quelques mois, c'est-à-dire à l'été, 70 projets différents avaient été identifiés. Et je pense que depuis 6 mois se sont passés, eh bien, il y en a bien d'autres qui sont venus s'y ajouter et qui permettront, dans les mois et dans les années à venir, c'est-à-dire le temps de recherche étant long, il faut attendre un peu pour en connaître les résultats, eh bien, je crois que ces travaux viendront préciser ce que nous pouvons retenir de cette période, mais que, je l'ai déjà dit tout à l'heure, on peut déjà, sans recherche particulière, procéder à quelques constats et quelques analyses qui sont ceux et celles que l'on peut tous faire dans notre environnement de travail. Et pour recourir à une métaphore photographique, eh bien ce que l'on peut observer, c'est que des difficultés latentes, c'est-à-dire préexistantes, mais souvent invisibles ou pour différentes raisons invisibilisées, eh bien sont devenues des éléments visibles que l'on peut identifier, que l'on peut caractériser et dont on parle. On peut, par exemple, et on peut tout d'abord parler de l'importance nouvelle prise par le numérique, mais aussi de son ambivalence pendant le temps du confinement, en particulier durant la première période, celle de la fermeture des établissements de tous les établissements scolaires. Donc, son ambivalence entre une valence positive, hein, d'une technologie qui a permis, vaille que vaille, de maintenir une médiation pédagogique, et puis une valence négative quand la disponibilité et la maîtrise des techniques numériques manquent aux élèves, et en particulier manquent aux élèves les plus éloignés de l'école, et accroissent encore un peu plus les difficultés de l'institution scolaire à réduire l'impact éducatif des différences sociales. Donc le numérique, remède, miracle. Et poison absolu. C'est, pour se référer à Platon, c'est le pharmacon, au sens où il n'est pas le seul d'ailleurs, mais où lui, on rencontre dans le Phèdre, c'est-à-dire le dialogue entre Socrate et Phèdre. Mais en fait, dans ce dialogue, on voit que le pharmacon a non pas deux valences, le remède et le poison, mais trois. Et la troisième, elle est très vraie pour le numérique en temps de pandémie aussi. Et la troisième, c'est celle du bouc émissaire. Et là, sans le droit de le faire, je vous reproduis un extrait d'une publication du Figaro en ligne d'il y a 2 jours. C'était avant-hier, donc, et une tribune publiée par un auteur que certains d'entre vous connaissent sans doute, Michel Desmurger, qui présente toutes sortes de garanties, de bonnes garanties scientifiques pour son travail et sa parole, puisqu'il est directeur de recherche en neurosciences à l'INSERM, et qu'il est aussi connu pour être un grand pourfendeur du numérique dans l'éducation, avec son ouvrage qui a fait sensation, dont le titre aussi a fait sensation, La fabrique du crétin digital, publié en 2019. Il y a quelques ouvrages de cet ordre-là qui ont été publiés dans cette même période. Enfin, celui-ci a eu beaucoup de succès. Et avant-hier donc, eh bien, il a publié cet extrait que vous voyez, enfin, cette tribune dont vous voyez le début à l'écran. Je le lis, ça vaut la peine. Le confinement a fait voler en éclats l'utopie du téléenseignement. Avant la crise du Covid, les pédagogies numériques étaient vantées comme l'avenir du système éducatif. Les rudes réalités vécues par les élèves et les étudiants ont démontré combien cette mode était une illusion de surcroît coûteuse pour l'argent public. Moi, évidemment, lisant cela, ça pose des questions qui sont intéressantes, différentes d'ailleurs, mais ce qui me semble évident, c'est que derrière cet apparent lien de causalité qu'il dénonce, le numérique étant la source de difficultés d'apprentissage pour les élèves et pour les étudiants, source de décrochage. Et on voit bien, vous avez dû aussi voir monter, peut-être y avez-vous participé, certains d'entre vous, à ces revendications, y compris dans des manifestations avec des banderoles, des pancartes explicites pour dénoncer les écrans, le numérique et l'enseignement à distance. Donc c'est une difficulté réelle, mais il me semble qu'en la matière, et en l'occurrence, on peut confondre, et que Michel Desmurger confond sans doute un lien de causalité qu'il dénonce avec un lien de corrélation. Il n'y a peut-être là, il n'y a, je crois là, qu'un lien de corrélation. C'est grave, ça pose problème parce qu'il y a un danger, c'est celui d'un retour en arrière considérable sur la réflexion. Quant à la place à donner, au rôle à donner au numérique à l'école, je suis un technocritique, hein, c'est-à-dire je suis pas béat devant l'intérêt du numérique à l'école, école majuscule bien sûr, et à l'université. Je ne suis pas non plus opposé à son utilisation. Je pense qu'il y a là à voir une approche critique qui suppose la connaissance et de la mise en discussion. Et il me semble que ce type de discours, étiqueté science en plus, bien est un discours dangereux parce qu'il l'empêche de réfléchir et qu'il peut nuire à des réflexions engagées qui certes sont malheureusement un peu trop embryonnaires, mais nécessaires à l'évolution non seulement de l'utilisation des techniques numériques à l'école, mais de réflexion sur l'évolution de l'école quand le numérique prend autant de place dans nos sociétés et dans nos vies. Donc, cause et conséquence me semblent confondues dans son propos. Et je vais signaler rapidement, de façon incomplète, quelques-unes des causes dont il dénonce les effets en se trompant de cause. La première, elle est bien connue, c'est la faiblesse de la formation initiale et continue des enseignants à l'ingénierie technopédagogique. Pas à Caen, bien sûr, je me garderai de dire cela, mais de façon plus générale. Et d'ailleurs, là aussi, l'actualité est intéressante puisque le CNESCO, le Centre national d'études des systèmes scolaires, a publié une étude hier qui a aussi eu les honneurs de la presse et de la grande presse. Et cette étude pointe certaines lignes de faiblesse de la formation continue des enseignants, pas spécifiquement par rapport au numérique, bien évidemment, mais le numérique est inclus dans la réflexion. Alors, elle dit, par exemple, pas une formation pas suffisamment en prise avec les réalités de terrain, une formation pas assez engageante pour le développement personnel des enseignants, une formation pas assez collective, pas assez collaborative pour susciter et bénéficier des dynamiques d'entraide entre pairs. Et dont on a pourtant vu la force de ces dynamiques pendant le confinement avec la création ou avec l'activation ou la réactivation parfois de communautés d'enseignants. À Technée, dans le cadre d'une étude que nous avons réalisée en 2018 et 2019, publiée en 2019 pour et avec la Cour des comptes qui a publié, réalisé, qui s'est auto-saisie et qui a réalisé et publié une enquête sur le service public du numérique éducatif. Nous avions réalisé, à la demande de la Cour des comptes, le volet études pour l'école primaire. Et s'agissant de la formation des enseignants, avec une enquête complétée d'entretien, une enquête quantitative et des entretiens avec un échantillon d'enseignants, alors l'enquête auprès de 10 000 de 10 000 enseignants, nous avions relevé les mêmes difficultés, les mêmes avis, les mêmes représentations des enseignants s'agissant de la formation continue au sujet du numérique. Pas assez proche du terrain, pas assez engageante et pas assez collective. Ça, c'est la première difficulté. Une autre, ce sont les conditions de travail des principaux acteurs de l'école. Alors, les principaux acteurs de l'école, il y a beaucoup de principaux acteurs de l'école, mais je pense évidemment essentiellement aux enseignants et aux élèves et les difficultés qu'ils rencontrent, et commencer par la déficience ou l'inadéquation de leurs environnements de travail, environnement personnel d'apprentissage des élèves, qui est quand même une notion qui vient de prendre un sens beaucoup plus fort, alors que c'est évidemment un thème préexistant, l'environnement personnel d'apprentissage de l'élève, qui se résume pas et que se réduit pas, qu'on ne peut pas rabattre sur l'élève à l'école, l'environnement personnel d'apprentissage de l'élève à l'école, mais aussi évidemment le problème de l'environnement personnel de travail des enseignants, qui ne se résume pas non plus, qui ne se réduit pas non plus à sa situation de travail, à son environnement de travail, lorsqu'il se trouve dans une classe de l'établissement scolaire auquel il est attaché. Pour les uns comme pour les autres, les enseignants et les élèves, il s'agit bien sûr de l'adéquation des équipements, on dit ça assez rapidement, enfin, ça vient assez immédiatement dans les analyses, mais c'est pas seulement ça. Bon, c'est pas seulement ça, on parle aussi beaucoup de connectivité défaillante, insuffisante, c'est vrai, ce sont des conditions nécessaires, mais ce ne sont pas des conditions suffisantes, il y a aussi la qualité des ressources numériques qu'ils peuvent mobiliser, mais il y a aussi d'autres éléments qui étaient peut-être un peu plus invisibles, comme l'environnement physique de travail, quelle pièce, quel ameublement, quel environnement sonore, quelle sollicitation parasite, quel accompagnement de proximité de ceux qui se trouvent à la maison, par exemple. Et puis, il y a cette question aussi des compétences pour être élève ou pour être enseignant dans ces environnements de travail et ou d'apprentissage. Et en particulier, les compétences qui sont liées au numérique, qui ne sont pas seulement des compétences opératoires de mise en œuvre, elles sont absolument indispensables, mais ce sont aussi des compétences de plus haut niveau, par exemple de planification de travail, de méthodologie de travail. Et notons ici deux choses. La première, c'est que l'expérience du numérique et de l'enseignement à distance pour les enseignants leur ont permis de construire des compétences alors qu'ils n'avaient pas eu de formation explicite pour le faire. Ça a été beaucoup souligné, on le lit beaucoup dans beaucoup d'articles, je pense là à des articles de presse, pas nécessairement des articles de recherche, mais aussi dans des articles de recherche. La construction des compétences des enseignants quant au numérique et à l'enseignement à distance par l'expérience obligé par les contraintes sanitaires. D'ailleurs, nous venons là, à Techné de démarrer une thèse, enfin plutôt c'est un étudiant, Théo Martineau, que nous venons d'inscrire pour une thèse que je co-dirige avec une collègue qui s'appelle Karina Yuri sur cette question de, comment l'a formulé, l'effet de longue traîne de l'expérience technopédagogique acquise par les enseignants pendant le confinement sur ce qui se passera après le confinement. On a quelques hypothèses là-dessus que l'on peut mettre à l'épreuve du temps réel et du temps nécessairement un petit peu long. Alors, l'expérience est bien sûr formatrice, mais ça n'est pas suffisant. Il y a bien longtemps que les théoriciens des apprentissages ont distingué des apprentissages qui peuvent se réaliser par la simple expérience et d'autres qui ne nécessitent ou nécessitent, pardon, des situations d'apprentissage dédiées explicites. Ce qui veut dire que l'expérience ne suffira pas et que la formation des enseignants à ces questions reste une absolue nécessité, une urgence absolue si on se place dans la perspective où d'autres contraintes, d'autres situations d'urgence ou de crise pourraient survenir, ce qui arrivera à n'en pas douter, même si on ne les connaît pas et même si on ne sait pas quelles seront. Pour peu, bien sûr, que ces formations répondent aux critiques que je viens de rappeler tout à l'heure. Notons aussi, deuxième point, et c'est une réalité connue depuis longtemps, observée, mesurée, analysée depuis longtemps par la recherche, mais pas que par la recherche, mais pourtant un peu invisible également, c'est celle de la perception en trompe-l'œil des compétences numériques des jeunes, et en particulier des jeunes lorsqu'ils sont élèves. Ces compétences étant bien plus limitées que ce que l'on en dit souvent, et avec des déficits de compétences qui peuvent faire obstacle aux activités d'apprentissage médiatisées, et en particulier, évidemment, en contexte à distance, puisque l'étayage, l'appui des autres et de l'enseignant ne sont pas disponibles à ce moment-là. C'est ce qu'a évoqué d'ailleurs tout à l'heure d'une autre façon dans sa conférence Stéphane Bonnery quand il a évoqué les digital natives avec la remise en cause des conjectures, comment dire, enthousiastes, mais déjà anciennes, formulées par Mark Prensky, l'inventeur du mot digital, de la locution du qualificatif, hein, digital natives. Enfin, il faudrait compléter, hein, parce qu'il a opposé les digital natives avec les digital immigrants, les natifs du numérique et les immigrants du numérique, selon lui, les plus jeunes et les moins jeunes, ou les jeunes et les vieux, comme vous voudrez. Il l'a fait au début des années 2001, en 2001, dans un article célèbre. Ce n'est pas un chercheur, hein, Mark Prensky, mais c'est quelqu'un qui a une analyse tout à fait intéressante de ces questions. Il a été très, très critiqué avec l'invention de cette idée des digital natives, parce que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Tous les jeunes nés avec le numérique n'ont pas cette maîtrise du numérique qu'ils énonce, d'autant plus aux dates de son article, puisqu'il disait en 2001 que les jeunes nés 20 ans avant, que tous les jeunes nés 20 ans avant, à partir de 1981, étaient des digital natives. Alors, on le sait, ce n'est pas vrai, d'autant plus que le numérique évolue radicalement très vite et que le numérique des natifs du numérique de 1980 n'est pas le numérique de 2000, n'est pas celui de 2020, etc., etc. Et nous ne sommes qu'au début de l'histoire, c'est ce qui est tout à fait évident. Donc, pour le dire autrement, cette maîtrise par immersion du numérique par les jeunes, évidemment, est une illusion, en tout cas partiellement une illusion. Et l'éducation numérique à l'école, donc des jeunes, cette éducation numérique de la maîtrise opératoire des techniques, savoir, par exemple, enregistrer un fichier sous un format qui va pouvoir être lu par l'enseignant plutôt que faire la photographie de son écran pour la lui envoyer comme une image qui sera un petit peu difficile à noter, par exemple, pour l'enseignant. Eh bien, cette éducation numérique, elle va de cette maîtrise opératoire-là à la compréhension, bien évidemment, des enjeux du numérique. Eh bien, cette éducation au numérique à l'école. Je dis à l'école, c'est très important parce qu'il y a des enjeux sociaux forts, parce que si cette éducation au numérique n'est pas faite à l'école, c'est qu'elle est faite ailleurs, dans les familles, et on sait que toutes les familles ne sont pas égales face au numérique. Et donc, la responsabilité de l'école est engagée pour cette éducation au numérique pour tous. Eh bien, cette éducation numérique, elle constitue un préalable à la mobilisation des techniques numériques pour l'éducation. On a pu le voir pendant le confinement, que ce préalable n'étant pas réalisé, eh bien, la mobilisation des techniques numériques pour l'enseignement à distance a posé de graves problèmes à beaucoup d'élèves. Enfin, dans cette analyse à grands traits, la situation de pandémie a révélé, a mis en lumière des acteurs de l'éducation dans la place, en tout cas en France, n'est pas celle qu'elle mérite. Je pense là, bien sûr, à deux types d'acteurs, les collectifs d'enseignants, je l'ai déjà signalé, mais aussi et surtout aux parents des élèves, dont la place à l'école et la place dans l'accompagnement scolaire de leurs enfants est assez faible, mais surtout est relativement absente de l'organisation institutionnelle et relève de l'impensé institutionnel et politique, des politiques éducatives. Donc, la principale dans ce contexte, ce contexte de pandémie et de fermeture des écoles, totale ou partielle, la principale difficulté pour les enseignants est une difficulté classique de l'enseignement. Il s'agit de la difficulté pour organiser l'activité de tous les élèves, l'activité d'apprentissage, bien sûr, et l'activité de chaque élève. Et finalement, cette activité est au cœur du métier d'enseignant. Elle est préexistante à la pandémie, mais elle a pris une dimension nouvelle, et en particulier en raison du décentrement pour l'enseignant, de la conception décentrement obligé, de la conception de l'activité d'enseignement vers celle de l'activité d'apprentissage. Ça paraît évident, ce n'est pas nouveau, mais la réalité des pratiques résiste beaucoup, souvent, à cette évidence. Je vais passer maintenant à l'hybridation, plus précisément. L'hybridation ayant été, étant toujours, le maître mot de la stratégie politique de la continuité pédagogique. On s'était évoqué tout à l'heure en introduction par Elisabeth. Je ne vais pas revenir sur ce choix terminologique qui pose beaucoup de problèmes, qui mérite analyse. En tout cas, non, je ne vais pas le faire ici. Le maître mot de la continuité pédagogique est celui de l'hybridation. Alors, l'hybridation, c'est un mot finalement courant, commun et trompeur, dont les acceptions sont variées, je dis voyageuses, variées en tout cas. que l'hybridation, c'est celle des plantes, d'abord, avec ses promesses de fleurs à la floraison qui perdure. C'est la promesse aussi de l'hybridation des légumes qui résistent aux insectes ravageurs, etc. etc. C'est aussi peut-être, en tout cas certains le pensent, l'avenir du transport automobile. Et c'est peut-être d'abord, au sens historique, une figure mythologique, celle du griffon au corps de lion et à la tête d'aigle. Reprise dans la littérature jeunesse contemporaine avec Harry Potter et la maison Gryffondor. Et pourtant, quand on parle d'hybridation à l'école, on ne parle pas de Poudlard, on ne se réfère pas à Gryffondor, à Poudlard. Je pense qu'on peut parler du surgissement de l'hybridation. Dans notre champ professionnel, l'hybridation était restée encore jusqu'à il y a très peu, juste avant la pandémie, une notion plutôt confidentielle, plutôt réservée à une communauté de praticiens et de chercheurs. Et aujourd'hui, c'est évident, elle est au cœur des politiques publiques sur l'adaptation des institutions éducatives aux contraintes imposées par la pandémie. Je dirais nécessité fait loi. Voilà, quand même, pris en quelques minutes hier soir, hein, d'articles parlant de l'école d'aujourd'hui. Et vous voyez, le mot hybride ou hybridation figure en titre ou dans les introductions de chacun de ces articles français ou francophones. Il y a un peu de situation belge dans ces articles-là. Évoquer le griffon d'or, bon, c'est bien sûr un petit clin d'œil, mais ça n'est pas la pire façon de décrire les processus d'hybridation, griffon d'or, hein, bien sûr, parce que si pour l'éducation, l'hybridation n'est pas évidemment l'assemblage d'un corps et d'une tête d'animaux différents, c'est un principe d'assemblage. C'est aussi un principe d'assemblage qui en est l'essence. Et contrairement à nombreuses déclarations publiques, un peu faciles, et publications médiatiques, hybrider une formation n'est pas synonyme de mettre à distance une formation, d'organiser une formation à distance. De même, enseigner en même temps en présentiel et à distance physique, hein, ce qui est une exigence forte des établissements universitaires et scolaires peut-être en ce moment, et qui me semble, à titre personnel, pour l'avoir vécu depuis des années, presque impossible à réussir. Enseigner en même temps à des étudiants ou des élèves qui sont en présence à côté de vous, devant vous physiquement, et d'autres qui sont on ne sait pas où, au bout du réseau, derrière leur ordinateur est dispersé, c'est presque impossible à réussir. Et ça ne désigne pas non plus spécifiquement une démarche d'hybridation. On pourrait plutôt trouver d'autres mots pour qualifier ce type de dispositif d'enseignement. En l'occurrence, il s'agirait d'enseignement comodal, une des modalités étant présentielle, l'autre distancielle. Puis je pourrais continuer à décrire des situations qui sont parfois qualifiées d'hybrides ou d'hybridation, alors qu'elles seraient mieux identifiées avec d'autres mots. Il y a la bichronie, la téléprésence, etc. Alors, je le disais, il y avait une communauté de chercheurs et de praticiens qui s'intéressaient déjà à la question de l'hybridation avant la pandémie, et travaux de recherche qui ont permis de s'interroger sur justement ces constituants de cet assemblage, quels sont les éléments de l'hybridation. Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup de travaux à ce sujet. Je pense en particulier, je me réfère spécifiquement à l'écran aux travaux du consortium ISUP qui ont été réalisés il y a quelques années, ISUP pour hybridation dans l'enseignement supérieur. Vous pourrez vous y reporter. Si vous ne les connaissez pas, ils sont tout à fait intéressants. Ils sont rassemblés dans un site web que votre moteur de recherche préféré trouvera facilement si vous tapez juste ISUP comme équation de recherche. Alors, selon ces travaux, ceux d'ISUP et d'autres, alors bon, ils ne sont pas totalement consensuels, hein, donc mon propos ne va pas coller exactement à ce qui est affiché à l'écran. L'assemblage que constitue l'hybridation repose bien sûr quand même sur les moyens mobilisés pour assurer la médiation pédagogique, qu'elle soit à distance ou en présence, avec bien sûr les techniques numériques qui permettent de s'affranchir, pour partie au moins, des contraintes de la distance pour assurer, c'est le thème général de la journée ou un des thèmes généraux de la journée, pour assurer une forme de présence à distance. Et je rappelle à ce sujet les mots d'une chercheuse tout à fait passionnante dans le domaine de l'éducation et des médias, décédée malheureusement il y a quelques années et qui a été ma directrice de thèse il y a aussi quelques années et qui a beaucoup travaillé sur l'enseignement à distance. Il s'agit de Geneviève Jacquinot-Delaunay et elle argumentait souvent pour dire que la présence ne s'oppose pas à la distance, contrairement à ce que l'on dit, la présence s'oppose à l'absence. Et bon, c'est une petite analyse simple, mais profonde. Je crois que chacun peut y réfléchir. Et l'hybridation repose aussi, au-delà de ça, entre autres éléments dont certains figurent à l'écran, sur des choix d'accompagnement méthodologique et d'accompagnement métacognitif, pardon, des élèves, et évidemment sur un point qui est clé, qui est la nature même, le format, la nature, les activités d'apprentissage qui sont proposées et qui sont définies, si je me réfère à une approche de l'ingénierie, en termes de tâches, de scénarios et de ressources nécessaires à leur réalisation. Au-delà de ces choix que j'ai qualifiés d'assemblage, et qui sont autant, je viens de l'exprimer ici, de choix d'ingénierie réalisés bien sûr en fonction des caractéristiques d'un public d'apprenants pour atteindre des objectifs d'apprentissage spécifiques, ce qui constitue l'essence de l'hybridation, c'est sa finalité. Et je crois que c'est vraiment essentiel. Sa finalité, eh bien, l'hybridation, c'est qu'elle organise l'articulation de l'activité de l'élève avec celle de l'enseignant au service de l'efficacité, pardon, des activités d'apprentissage. C'est-à-dire, elle permet de situer les activités d'apprentissage, peut-être de les déplacer même dans un continuum qui va de la supervision de proximité la plus stricte à l'autonomie de l'élève la plus ouverte, la plus grande. Donc, l'hybridation, c'est un déplacement aussi d'une ingénierie technopédagogique centrée sur l'activité de l'enseignant vers une ingénierie technopédagogique centrée sur l'activité de l'élève, que celle-ci soit donc directement supervisée, comme par exemple dans le cadre d'un cours magistral en coprésence, c'est le cas archétypique, ou bien qu'elle laisse une grande part à l'autonomie de l'élève, avec évidemment des moyens de pilotage ou d'accompagnement de l'activité par l'enseignant. Et en définissant l'hybridation de cette façon, on voit bien qu'elle n'est pas spécifique de la distance. On peut hybrider en présentiel, en organisant autrement l'activité des élèves, et on peut aussi ne pas hybrider véritablement à distance, en reproduisant à distance, par exemple, ces cours magistraux archétypiques avec des applications dites de classe virtuelle dont le nom dit bien ce qu'elles sont. L'hybridation peut donc être, là je vais en arriver au troisième, il me reste 5 minutes, en arriver au troisième et dernier point de mon propos, l'hybridation est aussi, ou peut être considérée en tout cas comme un moyen de jouer avec les déterminants de la forme scolaire. Je disais tout à l'heure de se jouer des déterminants de la forme scolaire, bon encore faut-il définir ce qu'est la forme scolaire. Là aussi, c'est tout un champ de recherche important et intéressant. On peut la définir de différentes façons. Vous connaissez les travaux emblématiques de ce champ de recherche de Guy Vincent. Moi, je dirais de façon, ou de Moligny, je dirais, moi, de façon, ou de Pernoud, etc. Moi, je dirais de façon simple que la forme scolaire concerne tous les acteurs de l'école, tous, et décrit de façon explicite ou tacite ce que chacun doit faire ou pas, et ce que chacun peut faire ou non. Autrement dit, la forme scolaire est constituée de normes, c'est ça qui me semble être le cœur de la définition de la forme scolaire, ce sont des normes, c'est un ensemble de normes qui fournissent un cadre à la vie et aux actions des acteurs de l'école. À la vie dans le cadre de l'école, bien sûr, et aux actions des acteurs de l'école. À un niveau très générique, on peut identifier quatre catégories de normes. La première définit le rapport organisé par l'école. Le rapport, et ça va évidemment faire écho à la discussion de la première conférence sur l'information, la connaissance et le savoir. Donc la première norme définit le rapport scolaire à l'information et aux connaissances. La deuxième, le rapport autant, enfin, le rapport des acteurs de l'école au temps et à l'espace, dans le cadre de l'école. La troisième, le rapport dans ce même contexte scolaire de chacun à autrui et à soi-même. Et la quatrième norme précise les contours de la capacité d'agir et donc de ce qu'il est possible de faire à l'école, de ce qu'il est possible d'organiser comme activité à l'école. Alors, je n'ai pas le temps de l'analyser ici, mais il est assez évident, enfin, il est même plus qu'évident que, indépendamment et avant toute mise à distance de l'école, ces normes ont été et sont mises en tension par le numérique, c'est-à-dire par la socialisation massive des usages numériques dans la société et donc aussi de l'ensemble des acteurs de l'école. Pour illustrer juste rapidement ce stress numérique de la forme scolaire, je vais prendre un exemple, c'est le rapport de l'information qui est bouleversé par la possession de smartphones des élèves et des enseignants qui donnent potentiellement un accès permanent à des sources d'informations non scolaires. alors Wikipédia, les réseaux sociaux numériques, qui viennent ou d'autres, qui viennent se substituer, compléter, voire défier, bien sûr, les vecteurs traditionnels de l'information scolaire conduisant à l'apprentissage et donc aux connaissances de savoir scolaire, c'est-à-dire, je pense là, aux emblématiques manuels scolaires et paroles de l'enseignant. Et avec la pandémie et la mise à distance de l'école, non seulement les usages du numérique mettent encore plus la forme scolaire en tension, à la mesure de l'importance nouvelle prise par le numérique dans ce contexte, mais aussi les repères les plus concrets de la forme scolaire sont déstabilisés. On assiste à un véritable bouleversement de ces références ordinaires des quatre normes de la forme scolaire. La parole de l'enseignant est atténuée, parfois brouillée dans une cacophonie subie, involontaire, d'équipes pédagogiques qui ont quand même du mal à se coordonner efficacement, modifiée par sa médiatisation, disparue au profit de celles portées par les ressources numériques elles-mêmes, celles qui sont prescrites par les enseignants, complétées aussi avec plus ou moins de bonheur par celles des parents. Le rapport au temps et à l'espace, le deuxième, lui, il est aussi doit être reconstruit hein, quand il s'avère difficile d'imposer à la maison le cadencement des heures du cours et la circulation dans l'emprise physique de l'établissement scolaire. Les normes de sociabilité, troisième norme, eh bien, qu'en dire si ce n'est que les pratiques relationnelles, personnelles et familiales viennent télescoper les normes scolaires en toute liberté quand l'élève est à la maison. Quant à la dernière, la capacité d'agir, il va de soi qu'elle ne peut être organisée et régulée de la même façon à la maison depuis l'école qu'à l'école depuis l'école. Finalement, ce sont ces choix d'hybridation avec le recours aux techniques numériques et à d'autres techniques, bien sûr, mais beaucoup de techniques numériques qui permettent de se jouer de ces nouvelles contraintes et de permettre finalement ce qu'est cette, entre guillemets, continuité pédagogique, c'est-à-dire de permettre une certaine résilience, mot à la mode, bien sûr, mais important, de la médiation pédagogique. Et c'est peut-être ce qu'on pourrait véritablement qualifier de continuité pédagogique, justement, et c'est une invitation aussi à penser les activités d'apprentissage et de médiation pédagogique autrement. Voilà, pour conclure en quelques mots, et même s'il est trop tôt, j'ai déjà dit, pour tirer un bilan complet de cette période, dont nous ne voyons tout de même pas la fin, c'est qu'elle nous a ouvert les yeux sur une série de problèmes à résoudre, mais aussi suggéré quelques pistes. Et celle que je souhaite retenir pour conclure, c'est celle de l'ingénierie techno-pédagogique centrée utilisateur, pour l'exprimer avec un vocabulaire un tout petit peu différent, emprunté non pas à l'univers de l'éducation, mais à celui des professionnels du numérique. C'est une question de UX design, de conception de l'expérience utilisateur. Si on transpose cela dans le champ de l'éducation, on pourrait dire que, c'est ce que je vous propose, que le métier de l'enseignant est de concevoir l'expérience d'apprentissage de l'élève. Et pour cela, il lui faut pouvoir se mettre à la place de l'élève. C'est la difficulté du design, ça. Ce qui est particulièrement difficile quand tous les repères sont brouillés et que l'enseignant peine à se représenter l'élève quand il est élève à la maison. Et ça pose enfin la question vraiment essentielle de l'empowerment, c'est-à-dire du passage du devoir-faire, qu'il s'agisse de l'enseignant ou de l'élève, hein, du devoir-faire au pouvoir-faire. Tout ça, bien sûr, concerne les élèves, les enseignants et les autres acteurs de l'école. Mon temps de parole est épuisé. Je vous remercie de m'avoir prêté votre attention et je suis prêt à réagir et répondre à vos questions.
Merci beaucoup, Jean-François. Nous allons pouvoir effectivement passer un temps d'échange de questions. Est-ce que, voilà, si vous avez, j'ai vu passer quelques remarques hein, dans le fil de discussion, mais je vous laisse quelques secondes. Nous pouvons prendre quand même une petite dizaine de minutes de questions. On est un petit peu juste en temps, mais vu qu'on a un petit peu de marge à midi. Alors, j'ai une première question peut-être pour repartir de la fin de ton intervention. Oui, je vais reprendre la question que je viens de voir d'arriver d'Anne-Laure, mais à propos de cette question de résilience d'une médiation pédagogique, hein, est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par cette expression?
Oui, bien sûr. Bon, la résilience, c'est la capacité d'un système à maintenir son activité sans trop la dégrader. D'une certaine façon, c'est aussi la définition que donne le New Management public de la continuité des activités. Hein, parce que si on reprend tout de même un peu cette expression de continuité pédagogique, c'est assez finalement étonnant et peut-être même un peu amusant qu'elle était employée parce que elle fait référence, bon, elle date d'il y a quelques années seulement où il a été montré que les entreprises devaient se doter de plans de continuité en cas de crise. Mais plan de continuité suppose justement l'anticipation et la continuité pédagogique improvisée est tout le contraire d'un plan de continuité. En tout cas, cette continuité ou ces intentions de continuité, elles visent à organiser la résilience des systèmes, donc faire en sorte que la médiation pédagogique puisse perdurer même si les élèves et les enseignants ne sont pas réunis. C'est tout simplement ça. Alors, elle est plus ou moins réussie, elle est plus ou moins vérifiée. Et comme je le disais tout à l'heure, les techniques numériques, parmi d'autres, mais enfin, tout de même, étaient les techniques principalement mobilisées pour assurer cette résilience de la médiation pédagogique. La médiation au sens de la relation, des interactions entre les enseignants et les élèves.
D'accord, merci. Donc là, c'est Anne-Laure Le Guerne qui pose cette question, hein. Quelle hypothèse sur le fait que les compétences acquises dans l'urgence ne perdureraient pas? Qu'est-ce que tu en penses?
Alors moi, je n'ai pas fait l'hypothèse qu'elle ne perdurerait pas. J'ai fait l'hypothèse qu'en temps ordinaire, les compétences acquises par l'expérience seraient toujours disponibles, mais que celles qui n'ont pas été développées par l'expérience seraient toujours manquantes. Alors, je vais le dire autrement, c'est quand on observe les pratiques pédagogiques de l'enseignement à distance en temps de confinement, donc c'est de l'enseignement d'urgence, l'enseignement de crise, et chacun a fait comme il a pu, souvent bien, mais comme il a pu. Pour autant, souvent de façon inefficace. Pourquoi? Parce que enseigner à distance ne s'improvise pas et l'expérience, encore une fois, réduit un peu la pratique à ce qu'il est le plus facile de réaliser. Donc, ça ne doit pas faire la formation enseignement à distance, ne peut pas faire l'économie d'un vrai apprentissage des tenants et des aboutissants, des modèles et des méthodes, des outils et des pratiques de l'enseignement à distance. Donc, mon hypothèse, ce n'est pas que les compétences acquises par l'expérience vont disparaître, c'est que pour transformer efficacement cette expérience dans une transformation utile aux élèves des pratiques pédagogiques en temps de confinement et pas, eh bien, il faut des apprentissages complémentaires que l'expérience ne donne pas.
D'accord, ça rejoint une remarque qui a été faite un petit peu plus haut pendant ta conférence sur la question de la formation dans le supérieur. Donc, tu as abordé la question de la formation initiale, mais il y a la question de la formation même des formateurs d'enseignants et des enseignants du supérieur. Est-ce que tu as des éléments là-dessus?
Bon, pas des éléments de chercheurs, mais des éléments d'enseignants-chercheurs, oui, bien sûr. Je ne me souviens pas, comme enseignant-chercheur, avoir été formé à la pédagogie et à l'ingénierie pédagogique ou technopédagogique. Alors, on voit apparaître dans mon université à Poitiers, par exemple, mais je suppose que c'est à peu près la même chose partout, un catalogue, une offre, disons, pas forcément un catalogue, c'est plus intelligent que ça, une offre de formation à l'ingénierie technopédagogique dirigée vers les enseignants pour faire face aux situations qu'ils vivent tous les jours. Donc ça, c'est très bien. J'espère qu'elle perdurera, qu'elle se systématisera, qu'elle se généralisera, qu'elle sera un préalable et non pas simplement une réponse d'urgence dans l'improvisation. Pour autant, ben pas pour autant, en plus de ça, je n'ai pas l'impression. Alors, moi, j'enseigne dans un master mention 4, donc PIF de l'INSPE de Poitiers. Je ne suis pas enseignant-chercheur à l'INSPE de Poitiers. Et le master dans lequel j'enseigne, que j'ai créé il y a bien longtemps, mais dans lequel j'enseigne seulement maintenant, vient de rejoindre. C'est un parcours de master qui vient de rejoindre la mention 4 de l'INSPE de Poitiers et qui porte sur l'ingénierie technopédagogique. Alors, nous formons très peu d'enseignants. Nous formons aussi quelques enseignants. La majorité des gens que nous formons sont des gens qui vont ensuite travailler dans les entreprises pour concevoir des dispositifs de formation souvent à distance, toujours numérique et souvent à distance. Et donc, ce petit accroche, ce petit lien avec l'INSPE, moi, me montre que, en tout cas, me suggère que cette question de l'ingénierie pédagogique, je ne parle même pas d'ingénierie technopédagogique, et a fortiori d'ingénierie technopédagogique, est peu présente. Et qu'une des raisons, il y a plusieurs raisons pour cela, mais une des raisons, c'est que les enseignants et formateurs de l'INSPE n'y ont pas été formés eux-mêmes. Alors bon, c'est un cercle, dit comme ça, c'est un cercle vicieux, bien sûr, hein, mais je pense qu'on peut le transformer en cercle vertueux, surtout dès lors qu'on envisage la formation comme un processus collectif. Et que si on met au centre de la formation des futurs enseignants la co-construction par eux et aidée par des experts que sont les enseignants et formateurs des INSPE et d'autres. Donc, si on organise leur formation autour de la co-construction et de la mise à l'épreuve d'activités pédagogiques, eh bien, je pense qu'on pourrait franchir un pas et donner au numérique sa place et toute sa place et que sa place.
D'accord. Donc finalement, ça serait de poursuivre ce que tu dis sur ta dernière diapo, qu'il faudrait recentrer l'ingénierie technopédagogique sur l'activité de l'étudiant ou du futur enseignant ou du professionnel en formation. Ouais.
C'est ça.
Alors, ouais. Une question là qui concerne la responsabilité de l'école. Donc je suppose que c'est l'école comme institution.
Oui. Donc, pas comme c'est écrit dans le chat, mais avec un E majuscule dans mon propos. Oui. Oui, bien sûr. Alors là, bon, les travaux sont légion depuis des années, hein, qui démontent ce mythe des jeunes très compétents dans l'utilisation du numérique. C'est vrai qu'ils le font. Le parallèle est parfait avec ce que je disais des compétences acquises par les enseignants sur la technopédagogie, sur la pédagogie, c'est-à-dire les jeunes, et les moins jeunes aussi, mais les jeunes acquièrent beaucoup de compétences liées à l'utilisation du numérique par l'utilisation intensive qu'ils en font. Mais cette utilisation intensive ne leur permet que le développement de certaines compétences, celles qui sont mises en œuvre par leurs usages, mais qui, évidemment, ne correspondent pas à la totalité des usages et donc la totalité des compétences nécessaires pour être un usager averti et efficace du numérique, voire un citoyen, un véritable citoyen dans une société où le numérique a beaucoup de place. La différence entre les deux, eh bien, ce sont des compétences qui ne se développent que par des activités souvent explicites, en tout cas spécifiques, d'apprentissage. Alors celles-ci, elles peuvent avoir lieu, bien sûr, au sein de la famille, hein, l'école n'est pas la seule à pouvoir agir, mais à condition que dans ces familles, ces apprentissages soient possibles, cet accompagnement des apprentissages par les adultes soit possible. S'agissant du numérique, on sait très bien que ça n'est pas vrai dans beaucoup de familles, et que là, il y a des déterminants sociaux extrêmement forts qui finalement handicapent la construction des compétences d'usage du numérique par les jeunes et pour les jeunes. Et donc, seule l'école peut assurer cette éducation au numérique pour tous, cette éducation évidemment équitable au numérique. Et qui plus est, s'agissant de compétences qui sont requises pour les apprentissages scolaires dans le cadre d'activités médiatisées avec le numérique. Parce qu'il y a une sorte de double peine là, hein. Double peine pour des élèves qui sont un peu en difficulté avec l'école et qui en plus sont aussi en difficulté avec le numérique. Et qui, lors par exemple du confinement, eh bien, voient se télescoper, ou plus, pardon, pas se télescoper, s'ajouter, peut-être même se multiplier ces différentes difficultés. C'est pourquoi bon, la terminologie fluctue, hein. On a parlé des fractures numériques, je ne suis pas sûr que fracture soit un mot adapté. Des fragilités numériques ou d'autres mots encore, mais admettons le mot fracture avec les fractures d'équipement, les fractures de connexion, les fractures d'usage, les fractures de compétences et toutes les autres fractures qui sont liées, bien sûr, à la méthode de travail et à tout ce qui relève de l'activité de l'élève.
D'accord, je vois le terme de didactique qui apparaît dans la discussion. C'est un terme que tu n'utilises pas. En revanche, tu utilises technopédagogie, ce qui n'est pas la même chose, mais qui montre bien qu'on est sur deux approches distinctes. Est-ce que tu pourrais déjà expliciter ce que signifie technopédagogie? Parce qu'en
Oui,
fait,
ah bon,
c'est.
ça va être une définition molle, hein. J'en suis désolé, c'est une grande catégorie. Bon, ce qui est important d'abord, c'est l'association des mots, hein. Je l'utilise toujours avec ingénierie. Donc, ce qui est important déjà, c'est, je crois, de définir, pour moi, c'est vraiment essentiel dans la pratique des enseignants et donc dans le développement professionnel des enseignants, c'est de considérer l'enseignement sous l'angle de l'ingénierie. L'ingénierie, ça suppose la connaissance d'un certain nombre de théories, concepts, mais aussi de processus et la maîtrise d'un certain nombre de méthodes et d'outils et de la capacité à les choisir et les mobiliser en fonction de l'objectif que l'on cherche à atteindre, qui est toujours évidemment l'efficacité de l'apprentissage pour tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour tous les élèves et pour chaque élève. Donc ça, c'est l'ingénierie. Pourquoi technopédagogique? Parce que l'ingénierie, elle porte sur la pédagogie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on organise pour l'élève les activités qui vont lui permettre d'apprendre, et pourquoi de façon pas provocatrice, hein, mais simplement, bon, ça n'a pas un sens énorme, hein, mais pourquoi technopédagogique? Eh bien, parce qu'il y a une ingénierie pédagogique particulière avec la mobilisation, des techniques numériques. Alors, c'était dit aussi tout à l'heure, les techniques numériques ne doivent pas dicter les pratiques pédagogiques, bien évidemment, mais pour autant, on ne peut pas non plus dire qu'elles seraient neutres et qu'il ne viendrait qu'instrumenter de façon neutre des activités qu'une ingénierie pédagogique aurait conçues. Il y a là des liens, des interactions, des effets de médiation extrêmement forts qui font que, évidemment, on peut faire autre chose, c'est bien, avec les techniques numériques. On fait souvent la même chose, on pense faire la même chose, et ce n'est pas tout à fait la même chose que sans le numérique. Quand même, hein, quand on observe de façon qualitative, mais quantitative aussi, hein, les pratiques pédagogiques réalisées avec le numérique, pendant et avant le confinement, hein, avec et sans distance, eh bien, on observe un certain mimétisme de la conception des activités, c'est-à-dire que beaucoup d'activités instrumentées avec les techniques numériques relèvent finalement d'une transposition pure et simple. Ce qui ne peut pas exister, hein, c'est une formule d'activité sans le numérique. Alors qu'évidemment, ça c'est un élément aussi important, si les techniques numériques ne sont utilisées que pour transposer avec le numérique des activités que l'on réalisait et que l'on peut toujours réaliser sans, eh bien, on a beaucoup, la probabilité est très forte que l'on dégrade les performances d'apprentissage. Ça a été très, très bien documenté. Pourquoi? Parce que si vous réalisez la même activité avec et sans numérique, avec le numérique, vous aurez en plus toutes les difficultés qui sont associées à l'utilisation du numérique, et donc une dégradation, ne serait-ce qu'en termes de charge mentale, hein, mais pas seulement, mais une dégradation de la situation pour apprendre. Et que donc le recours numérique doit répondre à autre chose, à d'autres besoins. Alors là, avec la pandémie, c'est évident, hein, c'est le besoin de la distance. Donc là, il n'y a pas tellement de doute sur l'utilité du recours au numérique. Mais s'il ne s'agit pas de la distance, il peut y avoir d'autres raisons, d'autres bonnes raisons pour utiliser le numérique dans une ingénierie technopédagogique. Et bien, l'ingénierie technopédagogique doit aussi permettre de renoncer au numérique quand il n'est pas utile, hein. Moi, je crois beaucoup à la nécessité de penser les usages du numérique dans l'éducation avec quatre catégories de contraintes. L'utilité pédagogique et didactique, je vais dire le mot didactique une fois, mais je ne suis pas un didacticien, mais je sais ce que c'est, bien sûr. Donc, il y a une contrainte qui est de l'ordre de l'utilité. Donc, quand c'est inutile, ne pas utiliser le numérique. Il n'est pas utile si souvent que ça, donc il n'a pas à être utilisé si souvent que ça. Une autre contrainte qui est économique, et là je rejoins Michel Desmurger, hein, si c'est inutile et très cher, mieux vaut le proscrire. Une autre contrainte, ensemble de contraintes éthiques, hein, voilà, je n'ai pas le temps de développer, mais ça me paraît être un point d'analyse extrêmement important. Et puis, une dernière qui est moins évidente, moi qui me semble extrêmement importante, qui le sera de plus en plus, ce sont les contraintes d'ordre environnemental. Hein, c'est-à-dire le numérique pour l'éducation a un coût environnemental fort et qui doit être déterminant pour les choix d'usage qu'on en fait. C'est-à-dire, quand c'est utile, même si ça coûte environnementalement, ça coûte quoi? Ça coûte de l'énergie, de l'électricité, donc ça contribue au bouleversement climatique, ça coûte des terres rares, ça coûte du travail d'esclaves jeunes dans des mines pour extraire des terres rares, etc. Donc il faut avoir ça en tête, hein. Enseigner, c'est aussi faire des choix qui se rapportent à cette dimension-là. Donc choisir d'utiliser le numérique, eh bien, ça veut dire qu'on a estimé que l'avantage est supérieur aux inconvénients. Donc, le numérique est intéressant dans l'éducation quand nous estimons, on ne peut pas toujours en être sûr, mais quand nous estimons qu'il est suffisamment utile.
D'accord. Bien, bah je propose qu'on s'arrête sur à la fois sur cet ensemble de contraintes que tu as mentionnées et en même temps une piste de réflexion importante hein, qui, je crois, aussi redonne de la responsabilité aux acteurs. Donc, merci beaucoup, Jean-François Cerisier. Merci à tous ceux qui ont participé silencieusement, pour le coup. Et puis, donc, je vous donne rendez-vous pour la conférence suivante à laquelle vous avez pu vous inscrire. Voilà, je vous laisse vous déconnecter. Et bonne suite de journée.
Merci beaucoup, Elisabeth, et merci à toutes et à tous. Bonne journée à vous.
Merci.